Libres échanges.
Animé par Olivier Lostis
et Gabriel Seban.
Libres échanges au-delà des frontières de chacun.
Pour interroger l'évolution de notre société, des points de vue, des interrogations pour un vivre ensemble autrement.
Science et croyances sont deux manifestations de l'esprit humain. Leurs relations sont complexes du fait qu'elles abordent différemment certaines questions. Celle de l'évolution des espèces, en l'occurrence, en est un exemple. C'est le thème de l'émission numéro 12 de l'évolution des espèces, science et croyances.
Avec nous pour en parler aujourd'hui, Monseigneur Pansard, évêque de Chartres, et Marie-Josée Seban, professeur agrégé en sciences de la vie et de la terre. Peut-être qu'en préalable, vous pourriez nous dire, parce que c'est un sujet un petit peu compliqué, l'évolution des espèces, la croyance, et la science. Définissons peut-être ces trois termes déjà pour commencer. Marie-Josée Seban, peut-être.
Pour moi, la croyance, c'est peut-être un point commun. C'est-à-dire qu'il s'agit effectivement de faire confiance à quelque chose, aux autres, qui peuvent affirmer certaines choses. Et par contre, la différence que je ferai, la nuance que je ferai, il y a peut-être la croyance scientifique et la croyance métaphysique ou religieuse. C'est que l'une demande en fait un acte de foi, alors que l'autre se base quand même sur des explications, quelque chose qui est à comprendre, à accepter comme explication, mais qui peut être critiqué si nécessaire, et qui potentiellement évolutif. Et par contre, il demande de faire confiance si on n'a pas le bagage nécessaire justement pour comprendre les éventuelles preuves qui seraient à apporter aux éléments démontrés, de faire quand même confiance à ceux qui le possèdent, ce bagage.
Pour ma part, je dirais hein, la science, hein, la recherche scientifique, c'est une mise en œuvre hein, de la capacité de la raison humaine à essayer de comprendre hein, le réel et comprendre un réel qui peut être déchiffré. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a des clés d'intelligibilité de cette réalité. Et donc voilà, on essaie de comprendre les lois, les modèles, les processus hein, de développement ou les processus d'organisation ou les processus d'apparition du vivant et du développement. Voilà, hein, mais pour moi, ça renvoie à cette grande capacité hein, qui fait partie de la vie humaine, cette capacité à mettre en œuvre une raison et à comprendre des choses qui ne sont pas simplement, justement, qui ne sont pas irraisonnables, hein, qui ont un lien, qui sont lisibles. Et donc, c'est apprendre. C'est pour ça qu'il faut aller à l'école, hein, apprendre les clés de lecture et puis ensuite les mettre en œuvre et ne pas cesser de les mettre en œuvre. J'imagine entre le moment moi, où j'ai fait une classe préparatoire avec de la physique et de la chimie et ce que l'enseigne aujourd'hui, 40 ans après, j'imagine que les programmes n'ont rien à voir pour une grande part parce qu'ils ont intégré un certain nombre de découvertes. Au niveau de la foi ou de la croyance, moi je ferais toujours un peu une distinction, c'est que le verbe croire hein, renvoie à plein de choses. Si je vous dis je crois qu'il fera beau demain, c'est que j'en suis pas sûr. Est-ce que ça veut dire je suis pas sûr? Je l'espère mais je suis pas sûr. Si je vous dis je vous fais confiance, hein, je te crois, hein, ce que vous avez vu tout à l'heure, tout le monde n'est pas un scientifique de haut niveau, surtout quand on touche à des domaines de l'infiniment grand ou de l'infiniment petit. Et donc, il y a pour une part, pour le commun des mortels, c'est on fait confiance à un certain nombre de découvertes hein, et de scientifiques hein, qui essayent de rendre compte. Ce que l'on peut attendre de ceux à qui on fait confiance, c'est qu'ils soient capables de rendre compte hein, de leurs recherches, de leurs découvertes, en étant capables de nous dire ce qui est reçu, hein, ce qui est assuré, et puis ce qui relève de la reconstruction en termes d'hypothèse, parce que forcément, hein, quand on veut tout reconstruire, il y a forcément des éléments, on reconstruit des éléments qui sont, on relie des éléments qui sont assurés par un peu les petits chaînons manquants, et qui sont les hypothèses. Et puis je ferai une troisième différence entre, avec le mot croire, qui sert aussi, hein, par exemple, je suis un chrétien, donc je commence, ma foi, ça commence par ces mots, je crois en Dieu. Et quand je dis « je crois en Dieu », je ne dis pas simplement « je crois que Dieu existe ». Je ne dis pas simplement « je fais confiance à Dieu ». C'est parce que je crois qu'il existe, parce que je lui fais confiance, c'est-à-dire parce que lui s'est révélé digne de confiance. Alors, pour mener ma vie d'homme, je prends appui sur lui. Ce qui est encore un autre, hein, donc là je suis plus dans une démarche existentielle, hein, y compris manière d'engager ma vie. Vous voyez que ce mot « croire » va, et donc de croyance, hein, va peut relever des champs très divers.
Alors, ce que je relève dans ce que vous avez dit tous les deux, c'est que effectivement, il y a de la croyance de part et d'autre dans l'approche scientifique comme dans l'approche spirituelle. Il y a également ce besoin d'intelligibilité qui fait que effectivement, l'homme a besoin de se donner des explications pour pouvoir adhérer et pour pouvoir générer un espoir. Il y a toutefois quand même une nette différence entre science et croyance mystique, dans la mesure où l'une est tournée vers l'expérimental et l'autre vers l'immatériel.
Alors pour les sciences, en tout cas de la vie et de la Terre, l'expérimental appartient, mais n'est pas la seule approche. Il y a énormément d'approches d'observation aussi. Et... Donc, par exemple, alors si on peut commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet, on parle souvent de théorie de l'évolution. Et en fait, moi, ce que je voudrais dire, c'est que déjà, on a un problème de sémantique parce que l'évolution n'est pas une théorie. L'évolution est un fait avéré dans la mesure où il y a multitude de preuves, d'observations qui deviennent incontestables. Ce qui est une théorie, c'est justement les mécanismes de l'évolution. Et donc, il serait déjà plus correct de s'exprimer en termes de théorie des mécanismes de l'évolution.
Alors, ces mécanismes-là génèrent un certain nombre de questionnements ne manqueront pas d'interroger le mystique, le hasard ou la nécessité. Alors, on va rentrer directement dans la compréhension du réel à travers cette question, à savoir que la réalité du modèle sur lequel on prend appui est-elle, différente chez un croyant mystique et religieux ou chez un scientifique. Sur quel modèle, finalement, basez-vous l'interprétation des faits qui, effectivement, sont proposés par la science?
Je dirais mon interrogation, mon approche, elle, je ne suis pas un scientifique de formation. Ma question, elle va être plutôt, au fait, qu'est-ce que c'est que la réalité? Qu'est-ce que c'est que le réel? Et est-ce que le réel n'est que ce qui est observable, y compris par nos sens, hein, y compris par toutes les techniques que nous sommes capables de mettre en œuvre, y compris imaginer ce qu'était la compréhension de l'univers avant Galilée même à l'époque de Galilée, et aujourd'hui avec nos moyens d'observation qui nous permettent de remonter très très loin dans le temps. Nos moyens d'observation. Mais est-ce que le réel, y compris, ne se réduit ? Il me semble que dans l'approche scientifique, on travaille sur ce qui est observable par nos moyens d'observation. Où est-ce que le réel peut être plus large que simplement ce qui est atteignable par nos sens. Et donc c'est là que se pose la question, y compris, de est-ce qu'il y a une réalité plus large que simplement celle qui est observable.
Donc au fond...
Mais là, en parlant comme ça, je pose tout de suite la question de l'approche de la physique et de l'approche des questions qui sont au-delà de la physique, ce qu'on appelait autrefois la métaphysique.
Ce qui, au fond, est un débat relativement complexe. Parce que, en fait, Monseigneur, ce que vous semblez avancer, c'est qu'il y a une complémentarité, peut-être, de l'approche scientifique et de l'approche religieuse, au sens où l'un s'occupe de ce dont l'autre ne s'occupe pas. Quelque chose comme ça,
ouais.
Peut-être.
Alors, on peut prendre les choses, soit simplement, chacun son domaine. La science va s'occuper du pourquoi et...
du comment.
va s'occuper du comment et puis la croyance du pourquoi. Mais cette distinction peut, au bout d'un moment, être un peu trop facile ou simpliste. Parce que, finalement, est-ce que... la question du pourquoi est totalement absente de la réflexion scientifique. Et puis, la foi, la croyance ne peut pas faire abstraction de la raison. C'est-à-dire de ce qui... je ne vois pas, et puis ça, c'est pas nouveau. Si je prends Saint-Augustin, à son époque, déjà, quand les croyants prennent position contre ce que disent les savants, au nom de ce qui est écrit dans leur texte, ils font fausse route. Parce que, après, ça pose la question de l'interprétation des textes. Mais une chose est vraie ou elle n'est pas vraie.
Alors là, je vous rejoins, parce qu'en fait, effectivement, la science, à partir du moment où elle avance, elle change notre regard sur le monde et sur nous-mêmes. Et de cette façon-là, effectivement, notre représentation au-delà du réel, de l'observable, de notre but, de notre utilité, de notre sens dans la vie, est interrogée. Et Freud, par exemple, disait que l'évolution, c'était le deuxième choc narcissique subi par l'humanité. Le premier étant donc celle de Copernic, qui a chassé l'homme du centre de l'univers, l'homme et la Terre du centre de l'univers, et puis l'évolution donc qui a fait chuter donc l'homme de son quand même piédestal érigé par la religion et qui la rapproche de l'animal, qui lui enlève le privilège de la création divine, enfin de la finalité de la création divine. Et donc le chercheur lui-même n'est pas complètement déconnecté de ces interrogations-là quand il cherche. Par contre, il a des méthodes, il a le souci, effectivement, de rester dans le domaine de la raison, de l'observable, du démontrable, et il est prêt à faire évoluer, effectivement, sa connaissance à chaque fois que des éléments nouveaux se présentent à lui.
Et je suis surpris aussi, en parlant avec tel ou tel scientifique, de voir comment... à moins d'être simplement toujours dans des domaines déjà travaillés, mais quand un scientifique se met à travailler dans un champ qui n'a pas encore été peu exploré, finalement il fait un acte de foi, quelque part, il pose le fait que je pense qu'il y a, il y a une solution de ce côté-là, il va se mettre à chercher, il va vérifier. Et quand il arrive à vérifier, ça n'est plus lors d'un acte de foi, mais je suis frappé de un chercheur, je crois que c'est compris aujourd'hui dans le monde scientifique, on prend conscience que personne n'est chimiquement pur, y compris, c'est-à-dire il y a des motifs, il y a des intérêts qui animent, y compris la recherche scientifique. Toute la question après, c'est d'être rigoureux hein, dans le respect un peu des règles, hein, de tel ou tel respect de méthodologie, hein, pour rester dans son champ, hein, dans son approche, y compris d'être capable d'en rendre compte, y compris à des pairs, y compris avec des publications, hein, qui feront que voilà, c'est le résultat, il aura ça sera un élément, hein, nouveau dans l'approche du réel, sachant que le réel, vous voyez, hein, entre la conception, la compréhension du monde que pouvaient avoir mes grands-parents, hein, que j'ai, et on se rend compte finalement que notre monde, enfin notre planète, là, une espèce de petite poussière dans une espèce de grande galaxie. On s'attend à découvrir du vivant en dehors, puisque nos moyens d'observation sont multipliés par je ne sais pas combien aujourd'hui par rapport à même il y a 40 ans. Le moyen d'observation de
l'infiniment grand et de l'infiniment grand,
de l'infiniment petit. Et donc, on n'a pas fini, hein, d'être sans doute surpris, étonné par cet univers dans lequel nous sommes.
Alors moi, je rebondirais sur l'histoire de foi du scientifique, peut-être avec un autre terme, le terme d'invention. En fait, le scientifique va observer, constater un fait qui va lui faire naître une idée. Donc cette idée est une invention. Et puis, à partir de cette idée, cette invention, il va rechercher de nouveaux faits et donc entamer une investigation. Et soit le fait donc contredit l'idée, il y aura réfutation, ou la conforte, il y aura validation. Et voilà comment, effectivement, on peut quand même peut-être remplacer le terme de foi.
En tout cas, moi j'aime bien le mot d'invention, puisqu'on l'utilise par exemple pour l'invention des cathédrales, par exemple. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans l'histoire, surgit un nouveau type d'architecture, par exemple?
Il y a des jours de litanie où les uns jouent avec l'ennui, des jours de silence où les ombres pensent. Il y a des jours de solitude, le cœur bat plus que d'habitude. Je suis blanc comme un linge, je descends du singe et je descends dans la rue parmi les gens perdus. Je vais sur la jetée, parler au vent salé. Je vide ma bouteille, je bois jusqu'au soleil. Je vole jusqu'à la lie, des mille et une nuits. Je plante comme un linge, je descends du singe. Il y a des jours où tu me manques, des heures où le bonheur se planque, des jours de torture qui ont la dent dure. Il y a des jours de manquer d'air, à deux doigts de se foutre en l'air. Je blanc comme un linge, je descends du singe et je descends dans la rue. Descendu singe. son du singe.
Vous êtes sur Radio Grand Ciel et vous écoutez l'émission Libre aux échanges, aujourd'hui consacrée à l'évolution des espèces, sciences et croyances, avec Monseigneur Pansard et Marie-Josée Seban, professeur agrégé. Alors justement, là, il semble effectivement qu'il y ait un rapprochement harmonieux, une complémentarité entre la science et la religion, mais est-ce qu'on peut avoir une idée plus précise de qu'est-ce qui et ou pourquoi les sciences et la religion se sont intéressées à l'évolution des espèces?
Et si je peux me permettre de compléter, Gabriel, ce que tu viens de dire, comment peut-on interpréter aussi l'évolution des théories, des mécanismes de l'évolution, puisque la conception de ces mécanismes a connu de grandes variations dans le temps, d'avant Darwin au moment de Darwin et après Darwin.
Alors déjà, bon, pourquoi les sciences et religions se sont intéressées à l'évolution des espèces, je pense qu'on l'a déjà, évoqué tout à l'heure. On est effectivement dans notre regard sur le monde. Et puis, quelle était la question?
C'est en fait pourquoi les sciences et les religions se sont intéressées à l'évolution des espèces. C'est-à-dire que derrière ça, il y a une évolution des perceptions et une évolution des positions aussi, notamment de l'Église, qui a effectivement beaucoup changé son regard sur ces questions scientifiques.
Alors bon, peut-être on ne l'a pas encore fait, qu'il faut déjà définir qu'est-ce qu'on entend pour le moment, de manière consensuelle dans le monde scientifique, par évolution des espèces. L'évolution des espèces, ça découle effectivement des idées de Darwin, et ça peut se résumer par un couple variation-sélection. En fait, Darwin lui-même n'avait pas d'idée des mécanismes, ou il en avait une idée moins précise, moins rigoureuse que celle qu'on a aujourd'hui. Et la grande nouveauté aussi du XXe siècle, c'est la découverte du support, du support de la vie, qui est l'ADN. Donc on a compris que l'information qui pilote la vie est contenue dans l'ADN, que cet ADN se reproduit pour pouvoir effectivement être transmis de génération en génération. Et cette reproduction consiste en une copie de la formule de cette molécule. Et cette copie, elle est la plupart du temps conforme, et il arrive qu'elle varie, qu'elle ait des erreurs. C'est ce qu'on appelle des mutations. Et puis, d'autre part, la reproduction, si elle est asexuée, bon, elle est censée être à l'identique, mais si elle est sexuée, elle mélange. Donc on a eu très vite des différentes copies, qu'on va appeler des allèles de gènes. Et c'est que l'un porte les unes, l'autre porte les autres. C'est les raisonnements qu'on fait facilement avec les couleurs des yeux, etc. Et c'est le hasard donc de la reproduction sexuée, des rencontres, de quel descendant va descendre de quel parent, va encore créer donc un brassage. Et ces différentes versions donc vont être confrontées à un environnement. Et cet environnement, le hasard va faire qu'elles vont être un avantage ou plutôt un inconvénient. Et donc, si elles sont un avantage, eh bien, elles vont permettre à l'individu porteur d'avoir plus de chances de survie et de se reproduire lui-même, et donc de transmettre ses versions. C'est ça qu'on appelle la sélection naturelle. Et répété sur quelques milliards d'années, eh bien, ça a donné naissance à une diversification des formes vivantes telles qu'on les connaît actuellement, avec énormément aussi de voies qui ont été tentées, qui ont existé et qui n'ont pas abouti jusqu'à aujourd'hui. Dans l'évolution des espèces, on oublie souvent toutes les espèces disparues qu'on n'a pas sous les yeux, et toutes les tentatives de l'évolution qui ont échoué à long terme.
Mais l'intention de l'étude de l'évolution des espèces, c'est... Est-ce que c'était la prévisibilité, finalement, du devenir? Est-ce que c'était dans un souci de maîtrise ou de meilleure compréhension, tout simplement, Est-ce que du point de vue finalement spirituel, on est dans cette problématique-là?
Je dirais, pour comprendre un peu, y compris le choc qui peut, hein, qui a pu exister entre approche scientifique et approche croyante, il faut, je dirais, l'ère scientifique, elle est quand même toute récente à l'échelle de la vie humaine. Et donc, dès qu'il y a eu de l'homme, inévitablement, il y a eu des questions d'interprétation de l'être au monde de l'homme, c'est-à-dire... Si je suis là, mais d'où venons-nous? Où allons-nous? Et cela a donné naissance à des, ce qu'on appelle des récits fondateurs, hein, des récits fondateurs, hein, de sociétés qui essaient d'exprimer l'origine, hein, de même qu'on peut chercher à exprimer chacun à sa propre origine, l'origine de l'humanité ou l'origine de telle ou telle tribu. Et donc, le choc va avoir lieu, hein, donc ces récits qui souvent sous forme à la fois poétique, sous forme de récits, vont essayer de rendre compte finalement de cette question d'où venons-nous, où allons-nous, et qu'est-ce que c'est que l'homme là-dedans, hein. Alors, le choc, ça va être quand le récit scientifique, hein, le discours scientifique va venir questionner ou remettre en cause... Hein, ces récits fondateurs. Hein, et donc là, comme souvent, moi je connais surtout ce qui se passe dans l'Église catholique, je connais moins dans d'autres sphères, mais comme souvent, le premier réflexe c'est la crispation. Hein, la défense, parce que, oh là là, on voit bien que ça risque de venir ébranler l'édifice, et parce qu'on n'a pas les outils pour y faire face. Hein? Et après, dans un deuxième temps, il y a souvent la mise en place d'outils. Alors, si je vois dans l'Église catholique, on va mettre des hommes et des femmes au travail, hein, y compris des scientifiques croyants. Hein? Et puis, on va retravailler sa propre tradition. Mais en fait, mais déjà, ce n'est pas la première fois qu'on est confronté à des questions un peu de... Hein? Et puis, voilà, aller puiser dans nos propres ressources, y compris... Dans l'Église catholique, c'est aussi retravailler la fameuse question qui rejaillit tout au long de l'histoire, la fameuse relation de foi et de raison. Et c'est quand il y a ce travail fait, alors un nouveau dialogue peut se naître, qui n'est pas simplement un dialogue d'opposition frontale. Mais voyez, moi je ne suis pas surpris que chaque fois qu'il y a un discours est reçu et mis... Et mis en cause, que le premier réflexe, ça soit un peu de la défense, ensuite une mise au travail, y compris obligeant, hein, parce que c'est un réel travail, hein, obligeant à faire ce travail de reconnaissance de l'autonomie, hein, du champ scientifique, et quel est ce champ, hein, de la foi, et comment prend-il en compte ces éléments qui ne sont pas toujours de l'ordre de l'hypothèse. Ou pour parler comme le pape Jean-Paul II il y a déjà quelques années, hein, quand il dit que l'évolution est plus qu'une hypothèse. Mmh. Hein, donc on n'est pas simplement une hypothèse parmi d'autres, non. Il y a suffisamment d'éléments pour dire, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Alors comment rendre compte, pour le chrétien que je suis, hein, dans la foi, qu'est-ce que je dis quand je crois que Dieu est créateur? Mais est-ce que ça veut dire que je crois que... dès qu'il y a eu de l'homme, c'était l'homme que je suis, alors que nous sommes capables de reconnaître qu'il y a de l'évolution dans l'histoire humaine, ne serait-ce que dans notre manière d'être au monde. Hein. Notre société française d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la société du Moyen-Âge, pourtant elle dépend de ça. Bien, je pense que c'est entré dans un autre champ là, qui et venait bien. Forcément toucher à... Derrière ça, c'est... Ça touche à la compréhension de ce que c'est qu'être homme. Et en ce sens-là, je pense que c'est ça aussi qui vient troubler. Parce qu'on a tous des représentations, et quand ces représentations sont questionnées, ça...
Et pour rebondir du point de vue donc des scientifiques qui se sont lancés dans cette aventure, dans cette démarche, je pense que le mobile, la motivation, il y en avait autant que de personnes. Bon. Puisque il était certain, par exemple, pour beaucoup, la science, elle n'amenait pas à rejeter Dieu, mais plutôt à mieux le respecter, à mieux montrer que la merveille de sa création. Et avec beaucoup, il y avait l'allégorie de la montre et de l'horloger. En décortiquant la montre, on décortiquait le génie de l'horloger créateur.
Mais vous voyez, en même temps, qu'est-ce que ça veut dire quand, en gros, quand on a un rapport au temps à l'origine qui est de l'ordre de 8000 ans et qu'on est basculé dans un rapport à 3,8 milliards d'années, enfin...
C'est une bombe.
Le rapport au temps... et donc, c'est... D'autant plus que la plupart de nos contemporains, moi je suis frappé de voir comment, alors que nous sommes à l'époque de la physique, au moins d'Einstein, etc., si vous posez la question à beaucoup de nos contemporains, vous êtes au sommet d'un voilier qui est en train de naviguer, hein, et vous lâchez une boule de pétanque, où est-ce qu'elle va tomber? Au pied du mât ou en arrière du mât? Beaucoup de nos contemporains vont vous dire qu'elle va tomber en arrière du mât. C'est-à-dire, ils n'ont pas intégré dans leur approche spontanée des découvertes scientifiques qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui datent de
Newton.
De Newton, voilà.
Alors, ce que vous dites l'un et l'autre est tout à fait intéressant et évoque peut-être cette question de l'historicité en général. C'est-à-dire que pour les sciences, on parle souvent d'historicité des sciences. Par exemple, au XVIIe siècle, lorsque les physiciens disaient « la nature a horreur du vide », bien évidemment, aujourd'hui, on ne dit plus, on n'explique plus les choses exactement de la même manière. Donc les sciences ont une histoire, elles sont réfutées, les théories scientifiques sont réfutées les unes après les autres, et puis les choses avancent et progressent. Et au fond, on a l'impression que l'interprétation religieuse des phénomènes naturels évolue à peu près parallèlement à cette question de l'historicité des sciences. C'est-à-dire que là aussi, est-ce qu'il s'agit là d'une réfutabilité ou d'un changement d'interprétation? Parce que ce sont au moment des conciles, généralement, qu'il peut y avoir des révisions importantes du regard religieux sur le monde. Enfin, du regard religieux, c'est peut-être beaucoup dire que de le dire comme ça, disons de l'interprétation simplement des phénomènes naturels. Mais du côté des sciences, on est aussi dans une forme de révision permanente. Donc est-ce que les deux fonctionnent ensemble, en parallèle? Est-ce que l'un et l'autre ont une influence dans chacune des sphères? Difficile de raisonner sans, par exemple, lors des conciles qui ont suivi la révolution copernicienne, où l'homme n'a plus été au centre de l'univers au sens physique du terme. Est-ce qu'il y a eu une révision de l'interprétation religieuse à ce moment-là? Enfin, comment les choses fonctionnent de ce point de vue-là, à la fois dans les sciences et dans les...
Au premier abord, il semble quand même que les sciences suivent leur petit bonhomme de chemin, avancent, découvrent, et que elles interrogent la place de l'homme, et que derrière, effectivement, les religions voient comment elles peuvent se positionner par rapport à ça.
C'est-à-dire, moi, je pense aussi, les religions, elles se vivent toujours dans le monde de ce temps. Hein? Et donc, voilà, comment va s'exprimer la foi religieuse dans un monde pré-scientifique? Hein? Et comment cette même foi religieuse va s'exprimer dans un monde scientifique? Et donc, hein, de même que, si je prends le livre de la Genèse, les deux récits de la création, nous savons par les exégètes hein, que les écrivains bibliques ont puisé dans les matériaux hein, qui étaient présents dans la culture babylonienne. Ils reprennent, donc ils vont utiliser les mêmes matériaux. Par contre, ce qui est original, c'est avec les mêmes matériaux de représentation du monde, ils vont faire un récit hein, qui essaye de rendre compte d'une toute autre manière de penser l'origine du monde que le monde babylonien. Et donc, j'ai envie de dire, comment la foi, pour des chrétiens, va se vivre dans le monde de ce temps, y compris en intégrant tous les éléments de compréhension de notre réalité que donne mais que donne aussi bien voilà, la science et les mécanismes de l'évolution que la science historique, que la science de la sociologie ou de la psychanalyse. Voilà des choses, des domaines qui étaient terrain connu il y a encore quand même, c'est pas si longtemps, et qui obligent, oui, les croyants à dire, à vivre et à vivre leur foi et donc à en rendre compte avec une intelligence dans le monde de leur temps et pas simplement dans le monde d'il y a trois siècles ou un millénaire ou deux millénaires. Ce qui fait d'ailleurs que quand on lit des récits qui ont été écrits il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, on ne peut pas les lire comme s'ils avaient été écrits hier. Il faut forcément faire ce travail d'interprétation, y compris de comprendre le récit dans la culture, dans l'ambiance culturelle dans laquelle il a été récit, pour ne pas justement faire de contresens. En tous les cas, surtout pas pour lui demander de parler comme un homme moderne. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I worship like a dog at the shrine.
Alors, je reviens un petit peu la réflexion. La science s'occupe du comment et le religieux s'occupe du pourquoi. Et je pose la question parce qu'elle me semble quand même au centre. C'est la question de la position par rapport au hasard. Le scientifique admet la notion de hasard comme une donnée à part entière, un critère. On peut même faire des probabilités à partir de cela. Comment, effectivement, intégrez-vous à la croyance le sentiment de hasard ou de maîtrise de cette incertitude ?
Enfin, la question est posée sur la croyance, mais moi je veux répondre au niveau scientifique, au niveau de l'évolution. Le hasard a une grande place dans donc l'interprétation de l'évolution.
Oui, tout à fait, c'est pour ça que je pose la question.
Et plus on met de hasard, en fait, plus on accepte de mettre de hasard et plus on s'éloigne d'une finalité. Et c'est là, je pense, qu'est la grande divergence. Le hasard, il est mis à toutes les étapes et comme point de départ, puisque on a parlé de ces fameuses mutations, de ces fameuses erreurs de copie, du hasard des rencontres pour la reproduction, du hasard du positionnement des populations au moment où un changement environnemental intervient, être en bordure de mer ou en montagne, etc., n'aura pas la même conséquence. Le hasard de quel événement va venir changer l'environnement. Et puis, pour finir, donc le basculement d'une espèce à une autre ou à plusieurs autres.
Ça serait un peu trop facile d'utiliser la formule « le hasard, c'est quand Dieu agit incognito ». C'est vrai que moi, je fais une distinction entre, voilà, dans les processus, mécanismes d'évolution, on voit bien, y compris, je crois qu'il y a un musée, je ne sais plus, en Autriche ou en Allemagne, enfin, y compris de toutes les bizarreries, y compris qui sont parfois des bizarreries qui sont un peu horribles. Donc la question pour moi, c'est, au-delà de ça, qui est de l'adaptation? Et on sait bien d'ailleurs, une société qui va vivre, une société de nomades ne va pas s'organiser de la même manière qu'une société agricole. Eh bien, moi, je peux comprendre tout à fait que du vivant va s'adapter aux conditions dans lesquelles qu'il va se retrouver. Et on est surpris, y compris parfois, de trouver des micro-organismes. Là, on ne s'attendrait surtout pas à en trouver, parce qu'on pense que comme ça, c'est pas propice à la vie. Malgré tout, nous trouvons des... Donc, voilà. En tous les cas, moi, j'aime bien garder cette capacité, cette attitude d'étonnement. Après, pour moi, c'est est-ce que ces mécanismes de l'évolution est un pur produit du hasard et de nécessité, quand même, pour reprendre la formule, ou est-ce que, de même que le réel est déchiffrable, on peut comprendre la structuration d'un atome, d'une cellule vivante. De même, est-ce que le processus lui-même a une certaine intelligibilité et donc a une certaine rationalité? Alors, qu'est-ce que l'on peut décrire de cette rationalité? Est-ce que c'est un pur fruit du hasard, ou est-ce que, est-ce qu'il y a un projet? Est-ce qu'il y a, je me souviens, c'est Mono, je crois que j'ai retrouvé ce texte, qui disait, plutôt que de refuser cette notion, ainsi que certains biologistes ont tenté de le faire, écrit encore Mono, il est au contraire indispensable de la reconnaître comme essentielle à la définition de tout être vivant. Une certaine téléonomie. Finalement, il y a... qu'est-ce que vous voulez, vous mettez ensemble... vous posez une graine à tel endroit, de toute façon, elle porte en elle-même une espèce une programmation qui va faire qu'elle va se développer, elle va donner un épi de blé. Alors, de temps en temps, il peut y avoir une bizarrerie, mais il y a quelque chose. Alors, d'où vient cette... à mon avis, la question, y compris, qui anime un certain nombre de débats quand il y a des rencontres entre scientifiques et croyants sur... certains vont parler de dessin intelligent, mais en tous les cas, ça pose la question de, d'où ça vient et vers où ça va. Donc, alors, en gros, est-ce qu'il y a un projet, est-ce qu'il y a une finalité, ou c'est un pur hasard qui... Mais dans ce cas-là, si c'est un pur hasard, il faut reconnaître qu'à la fenêtre de tir, au milieu de l'ensemble des possibles, la fenêtre de tir qui a été utilisée par ce hasard est quand même hyper réduite pour donner la réalité que nous connaissons aujourd'hui.
Alors, la téléonomie de Mono, il est défini comme la propriété des êtres vivants d'être doués de projets. Mais il n'y met pas une finalité. Et il dit simplement, ça peut se résumer à la programmation de se reproduire. Et il y en a même qui vont beaucoup plus loin. C'est la théorie du gène égoïste. L'individu, quel qu'il soit, animal, végétal, bactérie, ne serait qu'un avatar donc du gène, colonisé par le gène pour pouvoir se reproduire. Et en fait, je pense que la conclusion, c'est que le scientifique, malgré tout, se refuse à voir a posteriori une finalité dans quelque chose qui a une histoire, alors que on observe, alors effectivement, l'être humain est unique, hein, mais combien d'espèces et il aurait pu, il y a des gens comme le japonais Kimura qui dit que si la météorite, par exemple, il y a 65 millions d'années, qui est en partie responsable de la disparition des dinosaures, avait approché de la Terre un quart d'heure plus tôt ou plus tard, sa trajectoire aurait été déviée d'un epsilon, eh bien, on en serait peut-être toujours à l'ère des dinosaures. Et les mammifères dont nous faisons partie seraient peut-être toujours de petites bestioles terrées dans des terriers, dans des petites niches écologiques végétariennes. Et l'homme aurait pu aussi bien ne pas être là. Donc on est effectivement dans une petite fenêtre, mais une petite fenêtre parmi une multitude de possibles.
Alors, est-ce qu'au couple, vous avez longuement débattu de deux couples, le pourquoi du côté de la religion, le comment du côté de la science, le hasard du côté de la science, la finalité du côté de la religion? Pour schématiser, c'est peut-être pas si simple que ça, bien entendu, mais en gros, on est autour de ça. Est-ce qu'on peut aussi opposer deux nouveaux registres où la religion serait du côté d'une quête de vérité, là où la science serait plutôt du côté d'une quête de réalité, d'explication, de compréhension de la réalité? Réalité-vérité, est-ce que là aussi c'est un registre d'opposition qui peut permettre de distinguer les deux regards sur le monde?
Je ne pense pas que ce soit une bonne approche, parce que je pense que les deux termes, donc les deux concepts qu'ils représentent, sont présents dans les deux approches. Sont présents dans les deux approches.
Je crois que la recherche de la vérité est présente, y compris avec la rigueur des méthodes, y compris dans le champ de la foi. Et ça, s'il y a bien une dimension de foi, ça ne veut pas dire sans raison. Et je dois, moi, être capable de rendre compte des raisons de ma foi. Sinon, c'est simplement personnel et donc intransmissible. Voilà. Par contre, la question, c'est qu'est-ce que la vérité? Et qu'est-ce que c'est que la réalité? Ce que j'évoquais tout à l'heure, quelle est la définition du champ du réel? Si je prends le sentiment amoureux qui ne peut pas se mettre sous un microscope, etc. Et pourtant, c'est bien une réalité. Et en tous les cas, ceux qui le vivent, si on leur dit que c'est irréel, ils vont vous rire à la figure, parce qu'ils vivent bien quelque chose de, mais qui n'est pas de l'ordre de cette réalité palpable, matérielle, avec laquelle très souvent nous sommes. Mais je dirais, ça a été la même chose avec toute la découverte du champ de la psychologie. On était là dans un domaine tout à fait nouveau, qui est obligé d'apprendre en compte que la réalité n'est pas simplement la réalité matérielle. Ça je pense, c'est un élément, y compris quand on sait qu'aujourd'hui, cette table sur laquelle nous sommes, il y a plus de vide que de...
D'ailleurs... Rien n'empêche qu'il y ait toujours des résistances à l'acceptation du phénomène de l'évolution et de la théorie des mécanismes de l'évolution. Et je pense qu'à cela, il y a plusieurs obstacles. Le premier, c'est que finalement, cette théorie, elle est complexe et qu'elle est trop souvent simplifiée avec des termes inadaptés, c'est le cas de le dire, avec l'adaptation du plus apte, le fossile vivant, le chaînon manquant, tout un tas de choses qui n'ont pas lieu d'être. En fait, l'adaptation du plus apte, c'était effectivement la conception de Darwin, parce que, comme vous le disiez, il n'avait pas les outils actuel pour comprendre ce qui se passait. Il avait bien conscience qu'il touchait à quelque chose d'essentiel, d'important, et il y mettait des mots, une interprétation avec les connaissances du moment. Et aujourd'hui, on a bien compris que c'est pas une affaire d'individus, Et l'ennui, c'est que ces vulgarisations, ces simplifications qui ont faussé les choses ont été le support ensuite d'interprétations pour des idéologies. Et donc, y compris l'eugénisme avec la supériorité de populations, d'ethnies sur d'autres, etc. Alors que le fondement, en particulier de la sélection naturelle, ça n'est pas ça. Le fondement de la sélection naturelle, ça n'est pas une histoire d'individus, c'est une histoire de fréquence, donc de version de gènes dans une population. Et ensuite, c'est la fréquence qui va évoluer. Donc l'individu lui-même... Il n'est qu'un élément d'un ensemble beaucoup plus important. Le chaînon manquant, on oublie, puisqu'on a découvert les gènes du développement, les gènes architectes, qui nous montrent que, j'ai montré ça à mes élèves, une expérience de Japonais qui, sur des embryons de poulet, injecte une molécule donc, qui est l'expression d'un gène architecte dans le flanc d'un poulet. Et sur le flanc de ce poulet pousse une troisième aile. Donc on n'a pas besoin d'un dixième, d'un vingtième, d'un quart d'aile, de tiers d'aile pour avoir une aile. C'est deux ailes ou trois. Donc c'est plus la peine de chercher ça et de mettre ça comme argument. Et les fossiles vivants, même chose. En fait, l'évolution, elle avance en permanence et il y a des micro-mutations et des macro-mutations. Et le poisson célèbre qui est annoncé, même dans des musées, hein, comme fossile vivant, qui est le sélacanthe, génétiquement, il a autant de différences avec, donc, sans doute, ses ancêtres, les premiers poissons, que les autres. Par contre, ces différences ont moins touché le phénotype apparent. Hein, mais c'est beaucoup au niveau physiologie, au niveau génétique, etc. Voilà. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que dans la définition au départ, j'étais obligée de simplifier avec la sélection naturelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les théories des mécanismes, la sélection naturelle elle-même, en tant que moteur le principal, est contestée. Il existe donc des théories qui s'appellent des théories neutralistes où des scientifiques, en particulier Kimura que je citais tout à l'heure, pensent que non, les versions sont des gènes sont neutres et qu'elles échappent à la sélection naturelle. Que, au pire, ce qui se passera, c'est une sorte de dérive génétique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une partie de la population va migrer un peu plus loin, eh bien, elle va emporter avec elle une proportion différente. Donc une version un peu différente de la version moyenne globale. Et donc petit à petit, effectivement, on va dériver vers quelque chose, une formule autant T2, hein, qui finira par être peut-être une nouvelle espèce parce que les différences seront devenues trop importantes pour que la reproduction réciproque soit possible.
Ce que l'on voit parfois par exemple, chez un certain nombre d'espèces animales sur des îles qui viennent de la même souche, mais qui ont connu, suivant les endroits, des évolutions différentes.
Alors, ce qui se profile à travers cette dernière partie d'émission, et on va être obligé de conclure, c'est que derrière l'interprétation des mécanismes de l'évolution des espèces, se pointe une autre question à dimension plus morale, c'est l'utilisation qu'on peut faire de ces interprétations et de ces avancées, s'il en est. Et donc, du coup, moi, je serais amené à dire, est-ce qu'il y a matière à se différencier en tant que scientifique porté par le besoin de connaissance ou du croyant qui a besoin effectivement de se rattacher à une éthique et à une morale pour en rester finalement à une certaine, je dirais, un certain périmètre de connaissance.
On ne peut pas couper l'individu en deux. Moi, je pense que voilà, la science est un outil et tout dépend effectivement de ce qu'on va en faire derrière. Et derrière, la morale, l'éthique, tous ces concepts de société, puisque vous avez beaucoup parlé de société, mais la société humaine n'en est qu'une parmi tant d'autres, vont faire fonctionner donc dans la société ces outils.
Moi, j'étais frappé dans plusieurs fois. Vous avez évoqué entre à la fois les mécanismes de l'évolution et fait référence à plusieurs théories. Hein. C'est-à-dire, je pense, hein, la rigueur aussi intellectuelle hein, qui doit être la nôtre, c'est-à-dire, voilà, ce qui est acquis, hein, ce qui sont les mécanismes de l'évolution acquis et ce qui relève de champs encore d'interprétation sous forme de théorie. Hein, est-ce que les gènes sont neutres ou pas? Enfin voilà, on voit bien qu'il y a plusieurs et qu'il y a un débat scientifique, ça c'est utile. L'autre champ de point d'attention, à mon avis, c'est l'utilisation qui peut être faite, l'utilisation idéologique. Pour d'autres, hein, alors là on sort du champ scientifique, même si c'est pour utiliser la science, mais à d'autres desseins. Et donc ça, c'est la vigilance ou le point d'attention pour moi, ça serait finalement, c'est ce que le pape un peu évoque dans l'encyclique Laudato Si hein, sur l'écologie, c'est-à-dire il pointe deux espèces de monstres hein, à la fois il reconnaît l'importance hein, de la recherche scientifique, l'importance de l'économie, mais en même temps il dit ces deux domaines, s'ils s'autalimentent tout seuls, s'il n'y a pas de régulation, y compris du type éthique, parce que tout est lié, eh bien ça peut basculer. Et l'histoire nous montre quand même qu'il peut y avoir des dérives hein, à l'utilisation hein, de recherche ou d'éléments de la science. Vous l'avez évoqué, quand on parle de sélection naturelle, hein, telle que vous l'avez évoqué, mais ça peut être très bien utilisé et repris d'une toute autre manière.
Très mal repris.
Hein, c'est toute la réflexion aujourd'hui qu'il y a sur le transhumanisme. Hein, dire, il faut dépasser le stade humain aujourd'hui. Hein, donc, on voit bien que notre monde, y compris parce qu'il a des capacités techniques, hein, voilà. Ça, et donc, est-ce que, alors, la grande question, est-ce que... Mais là, on n'est pas simplement dans la recherche de compréhension des mécanismes d'évolution. Là, on est aux prises avec la possibilité que l'homme a d'interférer par son action sur un certain nombre d'évolutions, y compris dans les mécanismes de cette évolution. Est-ce que les choses vont se faire simplement parce que c'est possible, on le fait, ou est-ce qu'il y aura une régulation de type éthique? Un peu comme on se donne comme il y a des lignes blanches qu'on se donne infranchissables pour.
Alors, de façon très brève, oui.
Oui, nous allons être obligés de conclure malheureusement, mais c'est vos deux dernières interventions me disent assez combien il faudrait peut-être réfléchir à une autre émission qui pose la question justement de l'éthique, jusqu'où l'homme peut aller du côté de la création, de sa propre auto-création, ou des choses comme ça, avec tout un tas de questions qui se posent aujourd'hui à la fois dans la société et dans le monde scientifique, bien entendu. Peut-être que c'est un tome 2 qu'il faudra faire. Marie-Josée, vous avez un mot de conclusion, je crois, à dire rapidement.
Avant, j'aimerais quand même apporter un élément d'information qui n'est pas à la connaissance de tout le monde, c'est l'épigénétique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plaisanté sur Lamarck avec son histoire de girafe qui tirait sur son cou et que c'est comme ça que les coups des girafes sont devenus grands. Bien sûr, ça n'est pas du tout ce mécanisme-là. C'était l'histoire de la transmission des caractères acquis. Mais en fait, étonnamment, les recherches récentes reviennent un petit peu là-dessus. Alors bien sûr, pas du tout sous la même forme hein, et avec la même approche, mais il faut savoir quand même que des éléments de notre environnement sont capables, non pas d'agir sur nos gènes, effectivement, en étant mutagènes, en pouvant provoquer des mutations, mais il y a aussi des épimutations. C'est-à-dire, par exemple, on a entendu parler du bisphénol A. Eh bien, il a été montré chez les souris qu'il peut inactiver certains gènes. Et que, éventuellement, eh bien, ces souris chez lesquelles ces gènes ont été inactivés, cette inactivation pourrait être transmissible. Et donc, nous sommes en train de découvrir, et Joël de Ronet dit que c'est la plus grande révolution de la biologie de ces cinq dernières années, nous sommes en train de valider scientifiquement le fait que des éléments dans notre environnement, effectivement, sont capables de nous conférer de nouvelles configurations et que ces nouvelles configurations, on peut les transmettre. Ce qui était inconcevable il y a quelques années.
Ce que vous évoquez me fait penser, hein, finalement, souvent on a opposé nature et culture. Et finalement, on voit bien qu'il y a aussi une interaction entre la nature et la culture.
Une belle conclusion. Une prochaine émission, probablement sur nature, culture, éthique, science et religion. À très bientôt. Merci à tous. Bonsoir.
Darwin avait raison, je ne suis plus un loup. Je ne suis plus qu'un chien fou qui garde la maison. C'est mon évolution, je me suis trouvé un nom. Féloche est un poisson. Darwin avait raison. À la branche, suspendu aux questions. Rien dans les poches, rien dans les manches. Darwin avait raison.